C'est quelque chose qu'on dit aussi dans l'apiculture, que c'est impossible d'avoir des abeilles qui ne sont pas traitées. Mais moi, je refuse de traiter parce que ça va contre mur. Et on voit ici que les abeilles, elles peuvent survivre sans aucun traitement.
Vacarme. Vacarme.
Les abeilles ont-elles le bourdon?
Laurence Di Félix et Raphaël Bouchet.
Existe-t-il en Suisse des colonies d'abeilles mellifères en liberté qui vivraient dans des troncs d'arbres? En gros, des colonies d'abeilles mellifères qui auraient retrouvé leur mode de vie d'avant leur domestication. Selon l'association Free the Bees, il a été prouvé qu'en France, en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne, ces colonies existent et peuvent survivre dans la nature sans assistance humaine. L'association espère démontrer qu'elles sont présentes également dans les forêts suisses. Elle veut recenser et cartographier les sites d'abeilles mellifères en liberté, car elle reçoit régulièrement des signalements. Free the Bees prône également une approche la plus naturelle possible des abeilles, sans traitement ni nourrissage artificiel, car, dit-elle, les pertes font partie du cycle de la nature. Nous sommes sur un alpage au-dessus de Charmey, dans le canton de Fribourg. Pauline Arpin, apicultrice, et André Vermelinger, responsable de l'association, observent si les colonies installées dans deux arbres ont passé l'hiver.
Ouais. Normalement, s'il y avait les abeilles ici, on pouvait déjà les voir depuis ici, à mon avis.
Pour l'instant, donc là, il y a Pauline qui est montée dans l'arbre.
Bah non, elle est morte.
Vous voyez rien?
Non, mais il n'y a aucun bruit, il n'y a personne.
Si tu mets l'oreille sur le trou d'envol et si tu tapes un peu, il n'y a rien qui bouge.
Laissons-les tranquilles. Reportage Cécile Guérin, réalisation David Golan.
Tu vois du bâti, tu vois quelque chose?
Non, non, il y a...
Elle n'a pas passé l'hiver. Ok.
L'année passée, donc l'année 2021, c'était une année particulièrement mauvaise au niveau météorologique pour les abeilles. C'est des abeilles qui ont dû s'installer ici, qui ont dû chercher les réserves avec une année qui était vraiment difficile. Donc ça ne nous étonne pas trop que les abeilles n'ont pas survécu l'hiver. Et la nature, elle travaille avec des pertes aussi, elle produit beaucoup d'essaims. Et un grand nombre de ces essaims ne peut pas survivre l'hiver après.
Pour l'instant, il y a encore de la neige sur les sommets. C'est vraiment le début du printemps. Et il y a des pissenlits, des crocus encore là.
Oui, je crois les derniers.
Alors, les observateurs.
Alors là, il y a une deuxième cavité. Elle est placée un peu plus haut, donc sans une grande échelle, on n'a pas accès. C'est pour ça qu'on prend les lunettes approche pour regarder bien si on voit des abeilles qui volent.
Donc là, pour décrire l'abri, c'est un abri que vous avez installé, André Vermelinger.
Oui, ça c'est un imitat de cavité d'arbre.
C'est comme un bout de tronc d'un mètre, à peu près d'un peu plus d'un mètre.
La cavité à l'intérieur, c'est à peu près un mètre de haut et autour entre 20 et 25 cm de diamètre. Ça représente un peu le volume et la forme, ce qu'on trouve dans les cavités naturelles. Et ce qui est très important pour les abeilles, c'est surtout l'isolation. Ici, elles sont beaucoup mieux isolées que dans une ruche conventionnelle. Elles consomment beaucoup moins de miel aussi pendant l'hiver. Elles peuvent survivre ici avec 2-3 kg de miel, pendant que dans une ruche conventionnelle, elles ont besoin de 15 à 20 kg de miel.
Il y a un tout petit trou de quoi, 4-5 cm pour qu'elles puissent juste pénétrer par ce trou et ressortir par là.
Oui, exactement. Ça représente le trou qui est fait dans la nature par le pic. Et mes collègues avant, ils ont déjà vu qu'un pic a travaillé le trou. Donc, c'est aussi les autres animaux qui sont très intéressés par les cavités d'arbres. Parce que ces cavités d'arbres dans la nature, elles manquent, elles sont devenues très rares. Et il y a plein d'espèces et des groupes d'espèces qui dépendent l'un d'autre, qui ne trouvent plus d'habitat. Et c'est pour ça que ce projet aussi, il est important qu'on place des cavités d'arbres.
C'est haut dans l'arbre, en fait, les abeilles, elles habitent où alors ?
Oui, dans l'histoire, ils ont dû se protéger des ours. Ça, c'est certainement un des facteurs pourquoi ils vont assez haut.
Voilà, il n'y a personne qui se balade sur le trou de voile.
Non, je crois que c'est la même chose comme avant. Ici aussi, elles n'ont pas survécu, les abeilles. Mais on sait déjà que sur les 100 qu'on observe, il y a plusieurs qui ont survécu. Donc c'est déjà un bon signe. Je ne vais encore pas nommer des chiffres pour l'instant. On va les publier dès qu'on aura calculé exactement. Alors, cette cavité ici n'a pas été peuplée l'année passée, donc forcément, il n'y a rien qui peut survivre. Alors, on espère que cette année, ce printemps, il y a un essaim qui va entrer. Il y a 2 ans, il y avait une colonie, mais à un autre endroit, mais dans la même cavité, il y avait déjà de la bâtisse, de la cire, ça sent déjà les abeilles. Les abeilles, ils sentent très bien, donc mieux qu'un chien renifleur. Et c'est pour ça qu'elles trouvent relativement facile les cavités dans la nature, parce qu'elles vont sentir, et partout où ça sent la cire et le propolis aussi, elles regardent, est-ce que ça c'est un habitat pour nous, et elles vont le retrouver.
Alex Eby, professeur à l'université de Neuchâtel, il est à la fois biologiste, ethnologue, s'est beaucoup investi par rapport à la question des néonicotinoïdes et puis de leur impact sur les abeilles et la biodiversité. Et je vais le rencontrer en forêt, dans son rucher, juste sur les hauts de Neuchâtel.
Je rêverais de documenter chez nous aussi qu'on a des populations d'abeilles domestiques qui persistent à l'état sauvage, donc des abeilles férales domestiques seraient retournées à l'état sauvage, on parle d'abeilles férales dans cette situation-là. Dans tous les pays où des chercheurs se sont intéressés à des populations d'abeilles mellifères sauvages, on en a trouvé et on a pu documenter que la population était pérenne sur le long terme. Donc là, c'est pas chaque arbre qui a une population pérenne d'une colonie d'abeilles qui survit année après année. En fait, c'est au niveau de la métapopulation, c'est au niveau d'une population. On a peut-être une colonie dans un arbre creusé par un pic qui prospère juste assez pour faire un essaim qui va peut-être mourir l'hiver d'après, mais l'essaim va peut-être survivre et puis ensemencer quelque part une autre cavité d'arbre un peu plus loin.
Et qu'est-ce que ça change si on découvre qu'il y a des colonies d'abeilles sauvages mellifères?
Donc pour moi, ça change beaucoup de choses. Ça change peut-être que l'abeille a d'autres façons de gérer les enjeux. Les abeilles mellifères sauvages, elles sont confrontées à pas mal d'enjeux similaires à ceux auxquels sont confrontées nos abeilles dans nos ruches d'abeilles domestiques. Je parle de produits phytosanitaires, je parle des ressources. Par contre, elles ont un habitat qui est tout différent, un habitat naturel avec lequel elles ont travaillé pendant 10 millions d'années avant qu'on les mette en boîte. Donc une isolation importante avec un écoulement de l'eau qui est peut-être différent par le jeu de la condensation, par le jeu de l'aération. Et puis moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce contexte-là, c'est ce qui se passe dans une cavité, dans un arbre. Au fond de la cavité, on a l'accumulation de ce qu'on appelle un terreau de cavité, en fait, qui est un habitat pour pas mal d'organismes comme des champignons, des bactéries, des acariens, des cloportes, des pseudoscorpions, toute une faune en fait qui vit là-dedans, une flore et une faune qui vit dans ces cavités. Et j'arrive pas à imaginer que l'abeille ayant vécu avec ce truc-là au pied de la colonie pendant des millions d'années n'a rien à en tirer, en fait. Donc moi, je m'y intéresse d'un point de vue de la recherche fondamentale en biologie. Qu'est-ce que cette communauté peut apporter à l'abeille? Je pense que la colonie, à l'échelle de ce super-organisme, a besoin de cette biodiversité pour fonctionner. Peut-être que ça y apporte certaines choses par rapport à l'immunité. Peut-être que certains acariens, ça a été documenté, peut-être que certains acariens contribuent à lutter contre le varroa. Et je travaille là-dessus avec des collègues à l'UDI Neuchâtel, des spécialistes de la microbiologie, de mycologie. On a, on pense, une quarantaine, une cinquantaine d'espèces de champignons et de bactéries différentes qui vivent sur les milieux de culture qu'on a ensemencés avec des extraits de ces terreaux de cavités, quoi. C'est une pharmacie vivante et naturelle, quoi.
Mais ça voudrait dire que l'abeille n'a pas besoin de l'homme pour survivre? Elle s'en sort elle-même.
J'irai pas jusque-là. Je pense qu'on peut pas dire qu'elle a pas besoin de nous. Puis je pense que c'est intéressant de travailler avec. Je pense qu'on en a besoin de la promouvoir dans certaines régions où elle est peut-être plus en forêt. Parce qu'il faut pas se leurrer. Pas toutes nos forêts sont ensemencées par des colonies d'abeilles. Donc je pense qu'on a besoin d'en placer aussi avec l'apiculture, auprès de l'agriculture. Et moi, je serais attristé d'arriver à la conclusion qu'elles ont pas besoin puis qu'on arrête de s'en occuper. Ça reste un des plus beaux métiers du monde. Alors on gagne pas beaucoup notre vie avec ça en Suisse, mais ça fait partie des fondamentaux, hein. C'est les sentinelles. C'est des sentinelles, on a besoin de ces abeilles et puis de les savoir, de les connaître, pouvoir travailler avec elles, en tirer quelque chose pour comprendre ce qui déconne dans le reste de l'environnement, quoi.
Alors là, on est sur 1400 mètres d'altitude, en Gruyère, entre la vallée du Mottelon et la vallée du Grosmont. Moi, je fais l'apiculture ici en haut depuis assez longtemps. Je crois que ça dépasse déjà les 10 ans. J'ai des ruches conventionnelles, j'ai des ruches un peu spéciales qu'on nomme les ruches varées, plus adaptées pour les abeilles, un peu moins pour faire du miel. Et là, j'ai aussi que certaines colonies qui ont survécu l'hiver. J'essaie de travailler un minimum avec ces abeilles, donc de ne pas les nourrir, et seulement si j'ai vraiment besoin. De toute façon, elles ne sont pas traitées. Donc c'est des abeilles qui volent, qui ont survécu sans aucun traitement.
Donc le varroa, qui est le parasite qui les attaque, vous ne faites pas de traitement?
Non, je ne fais pas de traitement. C'est quelque chose qu'on dit aussi dans l'apiculture, que c'est impossible d'avoir des abeilles qui ne sont pas traitées. Mais moi, je refuse de les traiter parce que ça va contre un mur. Et on voit ici que les abeilles, elles peuvent survivre sans aucun traitement. Si vous n'avez pas peur de vous faire piquer, là, on entend bien le bruit.
Et une abeille qui sort?
Il fait encore assez froid, c'est pour ça que les abeilles sont surtout dedans. Normalement, s'il faisait un peu plus chaud, avec un peu plus de soleil, il y aura plein d'abeilles qui volaient.
Il y en a une qui rentre.
Même avec du pollen, joli pollen en jaune.
Sur les pattes arrière?
Ouais.
Et comment vous savez qu'elles ne sont pas infestées par le varroa, etc.?
Elles sont de toute façon infestées, donc les varroas se trouvent sur toutes les colonies. C'est impossible d'avoir une colonie d'abeilles sans les varroas. Mais ce qui est important, c'est que les abeilles et les varroas, elles peuvent coexister. Et il y a une multitude de stratégies avec lesquelles les abeilles peuvent limiter l'infestation des varroas.
Et vous, faites rien? Je suis étonnée.
Non, je fais rien parce que je connais tous les effets secondaires de ces traitements. Alors en Suisse, normalement, on traite avec l'acide formique et l'acide oxalique. C'est clair qu'on peut traiter les varroas, mais on crée aussi des effets secondaires sur les abeilles. On diminue leur système immunitaire. Donc forcément, c'est quelque chose qui n'est pas durable.
Tu dirais qu'il y en a combien qui survivent maintenant, après 10 ans, sans traitement?
Sans les nourrir, on perd énormément. Donc le premier facteur pourquoi elles meurent, c'est le manque de nectar. Alors sans les nourrir, je crois qu'on peut perdre jusqu'à 90% des abeilles. Donc vraiment beaucoup. Et maintenant, si on les nourrit, donc du coup, on n'a plus ces grandes pertes. Sans les traitements, je crois qu'on a en tout cas moins que 50% de pertes.
On n'a aucune idée de ce qu'on va avoir ici.
Ah oui, on voit des anciennes.
Ouais, c'est encore pas trop bouffé là, ça c'est même. Trop joli, trop intact.
Vous sentez la cire?
Maintenant, bon. S'il n'y a pas d'essaim cette année, ça va être complètement bouffé.
Mais je suis étonnée parce que justement, enfin, en apiculture conventionnelle, on nous dit qu'on devrait renouveler les cires sur un cycle de 3 ans. Et puis ça fait qu'avoir une ruche à cadre, c'est beaucoup plus facile pour renouveler les cires. Donc pour rappel, on nous apprend en apiculture conventionnelle que ne pas donner de feuilles de cire, qui est la base pour que les abeilles construisent leur cire, ne pas leur mettre à disposition cette cire, ça revient à demander beaucoup trop d'elles et qu'elles ne seraient pas capables, elles seules, de construire leur cire. Mais je me suis questionnée là-dessus et puis évidemment j'ai testé et en fait ben, on voit très bien qu'elles peuvent très bien construire leur cire. Mais j'ai l'impression que la seule raison, la principale raison, ce n'est pas une raison hygiénique. C'est une raison tout à fait économique parce que dans une ruche, on peut estimer qu'il y a 1 kg de cire et que ce kilo de cire, il va demander environ 10 kg de miel.
Donc si on les laisse faire la cire, elles ont moins de miel?
Oui, donc on en a moins pour le vendre.
Donc du coup, maintenant, vous laissez les abeilles faire leur cire?
Ben oui, et j'ai remarqué que même l'année dernière où c'était une année vraiment terrible, c'était catastrophique, mes ruches, elles ont construit leur corps complètement. Donc leur corps, c'est là où elles vivent, en fait, on appelle ça le corps. Sans que j'ai dû leur apporter plus de nourriture. Et bizarrement, bon, ça n'a pas valeur scientifique du tout, hein, mais j'ai remarqué que celles que j'ai laissées construire, elles avaient besoin de moins d'apport de nourriture que celles qui étaient sur des cadres déjà faits. Et je ne comprends pas parce que ça n'a aucune logique. Hein. Donc ça m'interpelle. À vérifier. J'ai l'impression qu'elles se sentent mieux et puis que, en fait, plus on les laisse faire leur petite vie, en vérifiant qu'elles ne meurent pas de faim, plus elles vont aller mieux, elles vont être plus capables de se protéger elles-mêmes. Ma conclusion de cette année, c'est que les abeilles peuvent très bien construire leur cire, elles n'ont pas besoin qu'on leur apporte du sirop parce que si on leur laisse suffisamment de miel, ben elles mangent leur miel. Elles n'ont pas besoin qu'on les multiplie parce qu'elles se multiplient très bien toutes seules, elles savent très bien le faire. Mais je me sens pas encore tout à fait prête à laisser comme André les abeilles sans aucun traitement parce que voir une ruche mourir, ben, j'arrive pas encore à le voir comme quelque chose de naturel, mais je le vois comme une perte et ça me rend triste. Et donc pour l'instant, ben, je pense que cette année, je vais encore faire le traitement.
Et vous, comment vous faites, André, quand la colonie est morte et vous êtes pas triste, puisque vous êtes attaché aux abeilles?
Oui, de voir une colonie qui meurt, ça c'est toujours triste, ça me touche aussi, ça c'est clair. Mais de voir dans l'apiculture conventionnelle, si on nourrit toutes les abeilles, si on les traite avec des acides, donc quelque part on détruit toute la population. Et moi je respecte la nature, je respecte les principes naturels. La sélection naturelle, ça c'est un principe naturel très très puissant. Et c'est pas à moi de placer mes émotions au-dessus des principes naturels. Donc il faut absolument qu'on respecte le fonctionnement de la nature.
Je suis plus jeune, ça doit être ça. Je pense que tous les apiculteurs aiment leurs abeilles. Ils les aiment. Aller au rucher, pour tous les apiculteurs, c'est une source de bien-être qui est indescriptible.
Vous avez un lien?
Ben, en fait, ce qui est beau avec les abeilles, selon moi, c'est que on peut les observer et c'est calmant. Elles n'ont pas besoin de nous, dans le sens où si on leur fait rien, elles vont faire leur petite vie. Et puis nous, on est juste là pour éventuellement les aider s'il faut. Et encore, André dit qu'il ne faut même pas du tout. Donc tout ce qu'elles nous apportent, c'est du bien-être. Et moi, je me suis mis comme mission, quand j'ai commencé l'apiculture, de les respecter et donc de prendre soin d'elles. Comme beaucoup d'apiculteurs, bah, j'ai suivi des cours. Après, je me suis formée moi-même et j'ai fait mes expériences.
pour faire ces expériences, il faut attendre une année. C'est très long, en fait. Hein. C'est très, très long. Ben, année après année, je comprends que ce qu'on m'a appris était issu d'une mentalité qui colle pas, qui est fausse, qui a quelque chose qui cloche dans cette façon de faire. Pour donner un exemple tout bête, ce qu'on nous enseigne, c'est que une reine abeille, maintenant, dans les conditions qui sont les nôtres, elle peut plus vivre, elle peut plus être fiable plus de 2 ans. Tous les 2 ans, il faudrait trouver sa reine, la prendre devant soi, l'écrabouiller et en remettre une qui provient d'un élevage qui aura été sélectionné pour être justement résistant à ces maladies et surtout être bien propre, etc. Mais surtout être bien productive. Donc là déjà, moi là, je me suis toujours dit, mais il y a quelque chose qui ne fout... Enfin, ça va pas, moi je vais pas prendre ma reine et l'écrabouiller devant moi puis en remettre une autre. On peut pas me faire croire que ça c'est bien. Et c'est comme ça pour tous les arguments.
Petit à petit, vous déconstruisez tous les arguments.
Exactement.
Que vous avez appris.
Exactement, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En fait, comme tous les exploitants de la nature, on se dit, mais en fait, on va perdre quelque chose si on laisse la nature faire. Si on laisse les abeilles se reproduire toutes seules, on va perdre un essaim. Si on les laisse se débrouiller toutes seules, elles vont mourir, donc on va perdre une colonie. On va perdre des kilos de miel, on va toujours perdre. Et c'est très dur de se dire, petit à petit, non mais en fait, je vais y gagner. Et c'est ça le plus dur, c'est de faire confiance à la nature, parce qu'on nous apprend que la nature a besoin de nous, alors que toutes les observations que je fais me montrent que c'est elle qui m'apporte et pas moi.
Mais au fond, moi, tout ces reportages vacarme, c'est comment prendre soin des abeilles. Et puis en fait, ce que j'entends, c'est que c'est les abeilles qui prennent soin des hommes.
Bah, ça, c'est ce que je ressens. Elles prennent soin de nous déjà en pollinisant, c'est vrai, mais il suffit de regarder comment fonctionne une colonie, la regarder. Donc, ouvrir une colonie, moi j'ai de la chance parce que je peux les voir avec une vitre. Donc, je les vois construire, je les vois faire une chaîne, un échafaudage pour construire leur cire, je les vois se transmettre la nourriture, faire des danses. Mais c'est. On ne peut pas se rendre compte à quel point c'est enrichissant de les regarder. Juste de les regarder. Ça m'intéresse, mais aussi parce que c'est un besoin. Ça me calme, ça me détend. Ça m'apporte énormément de bien-être. Et j'apprends énormément avec les abeilles, parce que les abeilles, elles font jamais rien d'inutile. Elles font que ce qui est utile au moment où c'est utile.
Donc ça vous aide dans la vie.
Bah, elles perdent pas leur temps, les abeilles. Elles travaillent beaucoup, c'est vrai. Mais une abeille, elle fait toujours des choses par logique. Et puis ça, elle fait des choses par logique parce qu'elle regarde son environnement, c'est un animal.
Oui.
Mais une abeille, elle ne va jamais rien faire par cupidité ou par agressivité. Une ruche, l'organisme, c'est la ruche, c'est pas l'abeille. Donc ça, ben c'est voilà, c'est pas pour rien que les communistes ont pris cet exemple.
C'est vraiment que une abeille toute seule, elle est incapable à vivre. Et toute la colonie, elle a inventé la vie éternelle. Et c'est uniquement possible si chaque individu met son ego de côté et met sa force et son énergie dans le peuple.
Collectif, quoi.
Ouais. Et je crois que notre société peut beaucoup apprendre de tout ça. Parce qu'on est quand même dans un individualisme extrême à notre époque.
Oh là, c'est pas un bon temps pour les abeilles parce que non. Il y a l'orage et maintenant il y a la grêle.
Vacarme.
...058-236-236-0 pour réagir à ce reportage de Cécile Guérin réalisé par David Golan. Les abeilles ont-elles vraiment besoin de nous ? Non, elles sont capables de se débrouiller seules, nous disent Pauline Arpin et André Vermelinger. Il ne faut pas placer ces émotions au-dessus des principes de la nature. Est-ce pour vous une approche juste ou trop radicale? Dites-le nous au 058 236 236 0.
Bacar, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Stéphanie Coudray et Diane Dufaux.
Dimanche dès 9h dans les Échos de Vacarme avec deux spécialistes, nous reviendrons entre autres sur le statut très à part des abeilles, un insecte avec lequel les humains entretiennent des liens millénaires.